Donc Cédric Voulet, responsable CGT Santé 04 et PACA, pouvez-vous nous dire ce qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui?
L'accès aux soins, il est chaotique aujourd'hui dans le bassin manosquin, c'est-à-dire il ne cesse de se dégrader. On voit que les urgences de Manosque sont fermées toutes les nuits depuis le 3 avril 2023, y compris en journée. Maintenant, on a des fermetures qui se font. Donc on a de plus en plus de patients qui n'ont pas accès aux soins, y compris médecins traitants. Parallèlement à ça, personnels ne vont pas bien du tout aussi. Donc on voit qu'aujourd'hui, ils sont maltraités. Donc il y a une problématique globale. Et aujourd'hui, c'est vraiment arrivé à faire converger tout le monde, c'est-à-dire les usagers, les élus, professionnels de santé, tous mobilisés parce qu'on est tous concernés. Appel à un rassemblement le plus large possible, le plus massif possible, le 18 avril à 17h devant l'hôpital de Manosque pour se faire entendre, pour faire entendre nos revendications, que ce soit un accès aux soins de qualité pour tous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'hôpital de Manosque, avec les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir se faire soigner, qu'il n'y ait aucun tri qui se fasse, que les personnels également peuvent faire leur boulot correctement, dans l'éthique qui est la nôtre, parce qu'aujourd'hui, trier les patients, ça va à l'encontre de notre éthique la plus profonde. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment d'arrêter de subir cette situation qui est intenable, que la situation ne fait que se dégrader de mois en mois. Donc maintenant, ça suffit, il faut dire stop. Stop à tout le blabla qui met en place partout. Et donc, on a besoin vraiment de frapper très fort le 18 avril et d'être le maximum. Donc on fait un appel vraiment à toute la population pour qu'elle nous rejoigne et pour avoir vraiment un accès aux soins pour tous et avoir un système de santé solidaire, universel pour toute la population. Et...
Quels sont les collectifs, partis, structures, associations qui appellent au rassemblement?
Au départ, il y a un collectif citoyen. Un collectif citoyen qui est le collectif Santé Haute-Provence qui essaye de travailler à la mise en convergence des diverses organisations. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette manifestation, puisqu'on retrouve, avec ce collectif bien sûr, mais on retrouve des organisations syndicales, telles que la CGT, la FSU, la Force ouvrière, et peut-être d'autres. Le rassemblement se construit de jour en jour plus puissant. Des associations, notamment des associations qui se battent sur la question de la santé, et des partis politiques, avec entre autres le Parti communiste, la France insoumise et le pôle de Renaissance communiste de France, dès à présent, et on espère que d'autres rejoindront également. Donc c'est cet ensemble-là d'organisations qui soutient l'initiative qui est lancée par Convergence 04.
C'est pas compliqué de rassembler autant de monde autour de la table?
D'abord, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a un travail qui se fait depuis longtemps pour essayer de construire cette convergence. La deuxième question, c'est que le problème devient critique à un niveau tel que tout le monde est touché par cette question de la santé. Et donc chacun se retrouve. Et troisièmement, personne n'est dupe des mesurettes qui sont prises, qui sont à l'inverse et qui ont pour objectif de briser le système de santé français basé sur une logique de solidarité et de service public pour mettre en place de nouveaux marchés sur la santé. Cette idée-là, elle devient largement majoritaire et je suis convaincu que le 18, on sera nombreux dans la rue pour le dire.
Vous espérez que des élus, des politiques seront présents?
Bien sûr. L'appel, on souhaite qu'il y ait le plus possible d'élus, et y compris de façon transpartisane. La question de la santé devient une question centrale pour beaucoup de monde. Et c'est clair, on sait d'ailleurs dès à présent que certains ont annoncé qu'ils seraient là pour soutenir le mouvement, parce qu'ils sont partie prenante. Et y compris un simple élu local, par exemple, quand on voit le désengagement. Un élu local, c'est celui qui est le plus proche de sa population. Donc, quelque part, il est responsable vis-à-vis de sa population de ce qui se passe dans sa commune. Et en même temps, il n'a pas les moyens parce qu'il y a un désengagement de l'État. Donc, il ne peut pas supporter ce désengagement de l'État, qui d'ailleurs se prolonge sur le désengagement dans la collectivité territoriale. Au total, il a tout intérêt à y être.
On voit qu'il y a énormément de luttes aujourd'hui dans le 04, aussi bien au niveau de l'eau, la gestion de l'eau publique, la question des écoles. Aujourd'hui, c'est le service public.
Au-delà de la santé, mais Jean-François l'a évoqué tout à l'heure, au-delà de la santé, c'est clair que c'est l'ensemble des services publics qui sont la même, qui subissent les mêmes peines. Et avec une logique très simple, on affaiblit le service public. Donc le service public ne devient plus intéressant. Donc les gens eux-mêmes, les usagers, disent « Ah ben c'est pas possible, il faut que j'aille ailleurs ». Vous savez, dans le privé, on dit « le client est roi », soi-disant. La réalité, c'est que ce sera catastrophique. Mais c'est cette idée-là qu'on essaie de construire. C'est casser le service public, l'asphyxier, le sous-financer, de façon à permettre en même temps de proposer une offre privée. on l'a évoqué tout à l'heure, en même temps qu'on met en difficulté l'hôpital, se crée l'hôpital privé de province, quelle sémantique, à l'UIN, qui est un organisme privé où il suffira de payer des dépassements d'honoraires pour aller se faire soigner.
La question du financement, elle est centrale. Et il y a deux questions, en fait, le financement et la démocratie. Alors, sur le financement, il n'y a jamais eu autant d'argent en France. Donc, on avait un PIB de 100 milliards en 1945. On a un PIB aujourd'hui qui était de 2500 milliards en 2020. Donc, l'argent, il est là. Simplement, c'est quel choix politique on fait par rapport à ça. Donc là, il y a 413 milliards qui viennent d'être décidés pour la guerre. On a vu que pour les JO, on a mis 6,6 milliards. Et si peu pour l'hôpital public. Aujourd'hui, il y a l'hôpital public qui souffre d'un sous-financement. Donc chaque année, il y a des économies qui sont faites sur l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui est à l'os. Et aujourd'hui, ce qui met clairement en danger la population, mais également les personnels qui y travaillent. Moi, il y a une soignante qui me disait quelque chose d'intéressant il y a quelques mois. Elle me disait, aujourd'hui, la direction nous parle de plus en plus de mode dégradé. Dans l'hôpital de Manosque, on est en mode dégradé. Mode dégradé, en gros, ça veut dire qu'il y a des services qui fonctionnent à moitié, qu'il y a des sous-effectifs. On n'accepterait jamais de prendre un avion en mode dégradé avec un moteur sur deux qui fonctionne. Pourquoi on accepterait de venir se faire soigner ou pourquoi on accepterait de venir travailler à l'hôpital en mode dégradé? Ça m'avait marqué, elle m'a dit ça une soignante, mais on est en plein dedans aujourd'hui. C'est pour ça que le 18 avril, voilà, on n'acceptera pas ce mode dégradé, qu'on se mobilisera vraiment pour être respecté. Et deuxièmement, donc, après la question du financement qui est hyper importante, c'est la question de la démocratie. Aujourd'hui, on a quelques personnes qui prennent des décisions pour tout le monde. C'est-à-dire on a quelques personnes qui profitent du système et une majorité qui en souffre. Donc aujourd'hui, c'est comment on arrive à faire en sorte que les professionnels, la population, arrivent à créer un rapport de force pour se faire entendre dans une démarche vraiment démocratique qui pèse sur les décisions. Donc vraiment, ces deux questions-là, elles sont centrales et c'est vraiment deux questions de fond majeures du moment. Là.
Au niveau de la formation des médecins, vous avez des propositions concrètes aujourd'hui. Comment concrètement on garde des formations supérieures gratuites sans imposer des concours et des...
En fait, le numerus clausus, c'est une grosse mascarade, parce qu'on forme quasiment aujourd'hui autant de médecins qu'on a formé dans les années 70, avec le numerus clausus, alors que dans les années 70, il y avait 20% de population en moins. Aujourd'hui, la population est beaucoup plus vieillissante, donc il y a beaucoup plus de maladies chroniques puisqu'elles ont explosé, donc on aurait besoin de beaucoup plus de formation. Donc là, le gouvernement nous dit, vous inquiétez pas, je vous ai entendu, on supprime le numerus clausus et on met le numerus apertus. Mais le problème, c'est qu'en fait, il se désengage puisqu'il laisse la responsabilité à chaque ARS et il laisse la responsabilité à chaque université de former le nombre de médecins qu'ils veulent. Mais bon, le problème, c'est que ça augmente légèrement, mais le budget des universités est comprimé, les locaux des universités sont quand même limités. On ne peut pas passer, par exemple, de 300 à 500, donc ils n'ont pas forcément les locaux pour. Donc on voit qu'il y a de légères augmentations avec le numerus apertus, mais qui ne comblent pas les besoins qui sont énormes, puisqu'aujourd'hui, on forme à peu près 10 000 médecins par an, et il faudrait peut-être former à peu près 15 000 médecins par an pour rattraper le retard. Donc on voit qu'il y a tout qui est fait pour limiter le nombre de médecins, et même quand on dit qu'on ouvre les vannes, on n'ouvre rien du tout, puisqu'en fait, on se dégage de responsabilité. En gros, c'est à chaque université de se débrouiller avec les moyens qu'elles ont. Donc.
Ce qui est clair aussi, c'est qu'il faudra créer des universités. On ne pourra pas faire reporter la charge de la formation sur les universités existantes. Il faut lancer un plan d'investissement dans la formation et dans la création d'universités dans d'autres villes. Et pour la profession de médecin et puis pour toutes les autres professions, d'infirmiers aussi, hein, qui sont quand même au cœur aussi de l'acte de soins.
Oui, enfin, pour la formation des médecins, le terme n'est pas forcément exact, mais c'est un plan Marshall qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans les années 70, une entreprise comme EDF n'arrivait pas à recruter du personnel parce qu'on était beaucoup mieux payé dans le privé. Qu'est-ce qu'a fait cette entreprise? Elle a créé un concours national, aussi bien pour les techniciens que pour les ouvriers. Donc pourquoi ne fait-on pas un concours national en médecine avec des filières paramédicales à l'éducation nationale à partir du lycée, avec un concours qui harmoniserait les études. Aujourd'hui, vous avez un médecin qui commence ses études à Montpellier, il ne va pas les continuer à Marseille, parce que chaque fac a son propre programme et sa propre progression. Donc, on pourrait très bien faire un concours national au mérite, avec une préparation à l'éducation nationale, et qui permettrait d'avoir des études gratuites pour ces médecins, mais aussi des affectations. La compensation du concours et de la réussite au concours, c'est on vous affecte, on a besoin de vous. Et partant de là, on aurait une harmonisation des études. Aujourd'hui, c'est inadmissible que chaque faculté fasse sa progression pédagogique au niveau des études de médecine. Des solutions, il y en a. Des propositions, on en a fait, nous, dans ce sens. Que l'ordre des médecins arrive aussi à un moment, il faut qu'ils comprennent que c'est fini la période de leur zone de challenge avec zone de préférence.
Faire un plan pour envoyer les médecins dans les endroits où il y en a besoin, on fait déjà ça pour les profs, donc pourquoi ça bloque en fait aujourd'hui?
Moi, je suis tenté de dire, c'est une condition au départ. Si lorsque le médecin rentre en études de médecine, Déjà, il faut revoir le concours qui aujourd'hui n'est plus du tout adapté. Bon, il faut faire un concours pour des gens motivés, qui ont de l'empathie avec des patients et non pas des super techniciens qui ont fait MATSUP. La vocation, ce n'est pas avoir fait MATSUP. La vocation, c'est être proche d'un malade et voir s'en occuper. La première des choses. Et ensuite, l'affectation des médecins. Si les conditions sont réunies au départ, si le jeune médecin qui est en formation, il est aidé par des bourses lorsqu'il n'a pas les moyens financiers, s'il a des études qui sont payées gratuitement, s'il est rémunéré pendant ses études, on peut très bien faire en sorte que le médecin, comme un apprenti, soit payé pendant ses études, dans la mesure où il fait des séquences à l'hôpital. On peut faire plein de choses. Mais la contrepartie de tout ça, c'est quand tu as terminé tes études de médecine, tu rembourses, entre guillemets, tes frais de médecine par une affectation dans un lieu où on a besoin de toi. Et après, tu vas dans le privé si tu veux.
À partir de là, l'élève était payé pendant son cursus scolaire. Et en contrepartie, il avait une obligation de service public à la sortie, avec obligation de rentrer là où il y avait des postes.
Tous concernés, tous mobilisés le 18 avril.